Eh oui, car c'est la revue de presse internationale de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et ce matin, vous avez été interpellé par une image.
Oui, une image qui s'étale dans la plupart des grands journaux internationaux, mais qui semble presque trop belle, trop parlante. La première fois où elle m'a frappé, c'est dans le Guardian britannique. On y parle du nouvel épisode de la crise au Venezuela. On est à la frontière avec la Colombie, sur la frontière même, au point de passage de Las Tienditas, là où doit passer dans les prochains jours, les prochaines heures, peut-être l'aide humanitaire envoyée par ces pays occidentaux qui soutiennent l'opposant Juan Guaido, qu'ils ont reconnu comme président par intérim. Et qui, c'est le Guardian qui nous le dit, veulent se servir de l'aide humanitaire pour tester la loyauté des militaires vénézuéliens à leur président contesté Nicolas Maduro. Et cette photo justement nous montre le pont de Las Tienditas, vide, désert, immaculé, en vue aérienne, avec seulement au milieu, barrant les 6 voies de circulation, 2 containers bleu clair sur les côtés et au centre une citerne orange. Tout est limpide dans cette image. Le régime chaviste a donc envoyé l'armée hier pour installer cette barricade et empêcher le passage de l'aide humanitaire, puisque c'est là que les autorités colombiennes qui gèrent la logistique du convoi ont décidé de passer. Le convoi humanitaire, décrypté toujours par le Guardian, par la politologue Marianne Jiménez Morales de l'université d'Oxford, c'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie envoyé par les alliés de Guaido pour créer une brèche dans le soutien de l'armée à Maduro. À quoi un avocat proche de Guaido ajoute que l'aide humanitaire va poser un double dilemme fatal à Maduro. Soit il laisse passer le convoi et il semblera faible, soit il le bloque, ce qu'il ne devrait pas faire s'il n'est pas stupide, et il sera aussi perdant. Pour le moment, à en croire la fameuse photo du pont de Las Tienditas, l'armée de Maduro semble déterminée à tout bloquer. C'est aussi cela qu'elle nous dit dès le premier regard, et c'est la légende que lui colle aussi bien Bloomberg, l'américaine, la Opinion de Cúcuta, le quotidien colombien publié de l'autre côté de la frontière, ou encore à Caracas, le journal d'opposition El Universal. Mais il manquerait une information à cette légende. Légende selon BTB, la télévision publique vénézuélienne, par la voix du plus proche des lieutenants de Maduro, j'ai nommé Diosdado Cabello.
Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca.
Ce que dit Cabello après une démonstration sur les fake news de la propagande américaine, c'est que ce pont de Las Tienditas, il a été construit par le Venezuela seul, achevé en 2016 et qu'il n'a jamais été ouvert à la circulation, suite au refus des Colombiens de coopérer. C'est donc un pont déjà fermé qui a été fermé. Ça mériterait d'être précisé, hein, même si ça n'enlève rien au fait que c'est par là que les Colombiens, oui, veulent faire passer l'aide humanitaire. S'ils le font, conclut Cabello, nous le considérerons comme une invasion, un acte de guerre irrégulière, tenez-vous le pour dit.
Et beaucoup d'interrogations dans la presse africaine sur l'intervention de l'armée française au Tchad.
Des raids aériens d'avions Mirage 2000 français, oui, confirmés hier par l'état-major parisien et dont il est question dans Jeune Afrique. Ils ont été effectués, ces raids, dimanche, puis mardi et mercredi. Ils visaient une colonne de 40 pick-up, des combattants armés du groupe rebelle tchadien UFR, l'Union des Forces de la Résistance, qui revenait en territoire tchadien depuis le sud de la Libye. L'UFR, nous apprend Jeune Afrique, est mené par un neveu du président tchadien Idriss Déby, devenu l'un de ses plus dangereux ennemis. Mais à lire le site d'info Monde Afrique, on comprend que le groupe visé n'a rien à voir avec les combattants djihadistes que la France et ses soldats de la force Barkhane sont censés traquer dans la région du Sahel. Il ne s'agirait là que d'opposants à la quasi-dictature d'Idriss Déby. Emmanuel Macron s'est donc senti obligé de voler au secours du dictateur Déby, affirme le Djeli, journal guinéen de Conakry, qui est cité par Courrier International, et d'y voir un nouvel acte de la France-Afrique, de l'engagement de la France à soutenir les régimes amis dans ses anciennes colonies, sans trop regarder s'ils respectent ou non la démocratie et les droits de l'homme. La nouvelle tribune du Bénin cite un responsable du commandement militaire français qui explique sous couvert d'anonymat qu'Idriss Déby, eh bien, ça reste le partenaire le plus viable, le plus solide de la France dans la région, que les Tchadiens comptent sur la France pour sécuriser la frontière libyenne. Les rebelles de l'UFR, eux, assurent à RFI que les frappes françaises ne les ont pas arrêtées, qu'ils poursuivent leur progression vers la capitale N'Djamena pour y établir un gouvernement de transition. En la matière, deux rappels pour terminer. Historique, d'abord, l'UFR avait déjà réussi à approcher du palais présidentiel d'Idriss Déby en 2008, mais pas à le renverser. Et puis, précision géographique, enfin, c'est à N'Djamena que la France a choisi d'installer le QG de sa force Barkhane au Sahel.
Et puis, on termine par notre planète, laquelle aurait tendance à perdre le nord.
Eh bien oui, c'est ce qu'on lit depuis hier un peu partout dans la presse. Le pôle Nord support magnétique se déplace. En soi, c'est tout à fait normal, mais il a tendance à se déplacer beaucoup plus vite ces dernières années. C'est ce que nous explique le journal russe Nezavissimaya Gazeta. Une vitesse de 55 km par an ces dernières années contre environ 15 km par an d'habitude. Le pôle nord magnétique, qui était localisé jusque-là au Canada, se retrouve aujourd'hui en Sibérie. CNN nous explique qu'il a même fallu recalculer la position précise du pôle plus rapidement qu'on ne le fait d'habitude tous les 5 ans pour ne pas que nos GPS soient complètement désorientés. Alors la presse russe ne tire pas particulièrement de fierté nationaliste du fait que le pôle Nord soit devenu russe. Il faut dire que selon un chercheur spécialiste de magnétologie à Saint-Pétersbourg et qui est cité par la 5e chaîne de télé russe, eh bien, cette accélération du mouvement magnétique terrestre généré par les mouvements au centre du globe d'une masse colossale de fer en fusion, ces mouvements, cette accélération donc laisse présager du pire, et oui, de la fin du monde, un inversement des pôles, ni plus ni moins, comme au temps où les dinosaures ou les mayas ont été rayés de la carte. Je vous rassure, il n'y a bien que ce chercheur russe de Saint-Pétersbourg qui lise la fin du monde dans sa boussole. D'ailleurs, la Nezavissimaya Gazeta nous rassure, hein, le pôle sud, lui, se tient plutôt à carreau pour le moment.
Et un bel accent russe, Tovalitch, merci beaucoup.
Ah bah là, j'ai
beaucoup.
Un petit peu buté, merci de le remarquer.
Merci Camille Magnard, non, pas du tout, vous avez un très bel accent. Merci en tout cas pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr, il est 7h43.